France Culture.
Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Coron les ait peints? Non!
Darling, I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les tableaux sont des confessions qui ne peuvent se déguiser sous le masque de l'écriture. La peinture offense, là où l'écriture camoufle. Tels sont les premiers mots de la biographie inachevée de Jean Dubuffet par Daniel Cordier. Avec quoi se débattait-il, l'ancien secrétaire de Jean Moulin? Qu'est-ce qui résistait le plus à cet amoureux éperdu de l'art et surtout des artistes? Raconter la vie d'un artiste pour expliquer son œuvre revient à éclairer une énigme par un mystère, poursuit-il. De l'auteur inoubliable de Jean Moulin l'Inconnu du Panthéon, mais aussi des divers tomes de ses mémoires, alias Caracalla, qu'il composa de 2009 à sa mort en 2020, on dit souvent qu'il eut plusieurs vies. Mais si c'était la même? Et si sa vie de regardeur, celle qui le fit collectionneur et un temps marchand d'art, disait tout de son rapport à l'héroïsme, au désir et à la mélancolie? Alors, allons y voir, puisque c'est l'avant-dernière émission de cette première saison qui avait commencé en septembre par évoquer l'esthétique de la résistance. À l'occasion de l'exposition Daniel Cordier, l'espion amateur d'art, qui se tient jusqu'au 13 juillet au Musée de la Libération de Paris, et pour évoquer cette figure extraordinaire, nous recevons Julie Verlaine et Paulin Ismar, bientôt rejoints par notre sociétaire du jour, Julia Pouma. La résistance, l'art, l'histoire, c'est tout cela qui revenait en cortège, si vivant, si vibrant, dans le souvenir de Daniel Cordier en 2020, l'année de sa mort. Il avait 100 ans. Écoutez.
Je ne sais pas comment vous expliquer. Jean Moulin est toujours... Il est toujours vivant. Il est à côté de moi. Il est là. Pardonnez-moi, mais je vous explique comment je vis un souvenir. Il n'est jamais mort.
Le temps passant, Daniel Cordier décide de clore enfin cet épisode de sa vie. Il se lance dans le commerce d'œuvres d'artistes contemporains. Mais en fait, cette vocation le rattache encore à la guerre et à Jean Moulin.
Il y a surtout une autre chose que je lui dois, parce qu'elle a changé ma vie, c'est l'amour de la peinture. Il me disait, ah mais, vous verrez, je vous montrerai Goya quand on ira au Prado. Je vous montrerai beaucoup de peinture et au Prado, vous comprendrez ce dont je parle. Si j'ai une vie un peu intéressante, c'est à cause de lui, puisque c'est lui qui m'a appris la peinture et c'est dans la peinture que j'ai fait ma vie.
Bonjour Paulin Ismar.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire grecque à l'université d'Aix-Marseille, auteur de nombreux livres sur l'anthropologie historique de la cité athénienne et de l'esclavage en longue durée. Vos derniers livres, Le miroir d'Oedipe, Penser l'esclavage, paru en 2023 aux éditions du Seuil, et l'année suivante, aux belles lettres avec Arnaud Massé, La cité et le nombre, Clisthène d'Athènes, l'arithmétique et l'avènement de la démocratie. Alors les auditrices, les auditeurs se disent, c'est peut-être une erreur de casting. Non, pas du tout, parce que vous avez bien connu Daniel Cordier, avec qui vous avez écrit un livre d'entretien très important, De l'histoire à l'histoire, publié en 2013 chez Gallimard. En fait, c'est l'écriture de l'histoire qui vous a amené à Daniel Cordier. Tout ça, c'est lié au rapport entre la mémoire et le témoignage, finalement.
Oui, c'est-à-dire que ce qui m'intéressait dans la figure de Cordier que j'ai rencontré au début des années 2000, c'était l'histoire d'un témoin important de la résistance qui écrivait l'histoire de la résistance contre les témoins. c'est-à-dire en s'appuyant quasi exclusivement sur les archives, contre l'autorité des grands témoins. Et cette configuration, je la trouvais passionnante pour ce qu'est l'écriture de l'histoire en général.
Parce qu'il disait, au fond, être secrétaire, avoir été secrétaire de Jean Moulin, ça n'aide pas du tout à dire le vrai sur Jean Moulin, au contraire.
Bien sûr, d'une certaine façon, ça peut troubler. Et donc, il fallait passer par les archives pour restituer la vérité de ce qu'a été la mission de Moulin.
Julie Verlaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'université de Tours, ancienne présidente de Mnemosyne, association pour le développement des femmes et du genre. Vous avez travaillé sur les femmes collectionneuses d'art et mécènes de 1880 à nos jours. C'est le titre d'un de vos ouvrages paru chez Hazan en 2014, tandis que votre dernier livre porte sur Sonia Delaunay, Nina Kandinsky et les autres, les héritières et l'art abstrait, paru chez Payot cette année. Mais on vous doit aussi, en collaboration, une histoire des galeries d'art en France, chez Flammarion, en 2024, qui complétait votre thèse, parue aux éditions de la Sorbonne en 2019, « Les galeries d'art contemporain à Paris, une histoire culturelle du marché de l'art 1944-1970 ». Là, on est évidemment en plein dans les années Cordier, mais d'ailleurs, à l'époque, les archives Cordier n'étaient pas encore disponibles, elles le sont, et donc vous retravaillez en ce moment sur Daniel Cordier, galeriste.
C'est une histoire un peu infinie, hein, l'histoire des galeries d'art. Et effectivement, quand j'ai fait ma thèse, les archives de la galerie Daniel Cordier étaient inaccessibles. Et ils les disaient même disparues.
Oui.
Aujourd'hui, elles sont déposées au Centre Pompidou. Elles vont bientôt déménager dans un nouvel espace pendant la fermeture du centre. Et il y a un immense chantier qui attend des jeunes chercheuses et chercheurs pour mieux comprendre l'histoire de cette galerie assez atypique.
Alors cette galerie, elle est atypique aussi parce que, d'une certaine manière, sa vie est courte. Hein, c'est 8 ans sur lequel il a beaucoup écrit. Et au fond, Daniel Cordier, il est devenu marchand d'art pour continuer à être collectionneur parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour garder tout ça, en fait.
C'est tout à fait ça. C'est tout un itinéraire d'amour de l'art qui passe d'abord par des révélations, ensuite la volonté d'être peintre. Il a cherché à être artiste pendant 10 ans pratiquement, hein, et ça n'a pas marché. C'est un peu oblitéré dans ses textes. Et puis la collection, l'achat, le soutien aux artistes est venu, et l'opportunité de devenir marchand d'art, qui finalement n'a duré que 8 ans, qu'il appelle lui-même 8 ans d'agitation.
Oui, le résistant, puis le collectionneur, puis l'historien. C'est comme ça d'ordinaire qu'on scande la vie de Daniel Cordier, et pourtant tout se mêle dans la mémoire, dans le souvenir, dans le témoignage, ne serait-ce, Paulin Ismar, que parce que c'est en plein dans la résistance que l'art fait effraction dans sa vie.
Oui, complètement. Alors, ce qui est compliqué, c'est que lui-même, à partir des années 80, présentait sa vie en disant qu'elle était scandée par 3 ou 4 moments qui auraient été absolument séparés, absolument distincts les uns des autres, comme si il s'était réinventé ou il avait réinventé sa vie à chaque fois en 1945 après la guerre, et puis en 1977 surtout quand il abandonne ses activités de marchand de tableaux, il disait marchand de tableaux plutôt que oui, galeriste, pour devenir historien. Et en même temps, non. Enfin, c'est-à-dire que ça marche pas. C'est pas aussi clair que ça.
Julie Verlaine.
Oui, moi je pense effectivement qu'il a voulu nous donner des vies, nous présenter des vies, et qu'en réalité elles sont très liées. 2 dates par exemple, puisqu'ici on aime les dates. En 1964, c'est à la fois la fermeture de la galerie retentissante, les 8 ans d'agitation qui se clôturent, et c'est la panthéonisation de Jean Moulin.
Ah oui.
1989, c'est l'inconnu du Panthéon, donc un livre important qui présente également ce passé de résistant, et la donation Daniel Cordier au Centre Pompidou. Donc ces 2 vies, elles sont parallèles, et sans doute qu'il appartient aux historiennes et aux historiens de faire les ponts que Daniel Cordier n'a pas véritablement fait de son vivant.
Oui, en même temps, on les comprend assez bien quand on lit, par exemple, Amateur d'art, donc un des textes récemment publiés dans lequel on voit très bien que la galerie n'a été montée que par le soutien de Guy Debreuil, qui lui avait succédé à la DGER en 1945. On voit l'importance aussi d'Élie de Rothschild qui prête... Bon, bref, il y a aussi toute une sociabilité qui est le produit de l'expérience de la guerre, et dans lequel, en fait, son statut auprès de Jean Moulin est connu aussi par un certain nombre de
Jean
personnes.
Moulin, Jean Moulin, dont la couverture dans la Résistance était justement d'être marchand d'art. Donc voilà, tout est lié.
Bien sûr, ce qui explique qu'il l'a raconté à de nombreuses reprises, qu'en public, Jean Moulin lui racontait l'histoire de l'art, parlait de tel ou tel artiste contemporain, c'est-à-dire des années 20, 30.
On va l'écouter justement, Daniel Cordier, on va l'écouter raconter la fameuse révélation du Prado. Il le raconte aussi dans un des tomes de sa mémoire, la victoire en pleurant. C'était au micro d'Alain Fleischer, Le regard d'un amateur, 1990.
J'ai découvert la peinture par hasard, comme toutes les choses importantes qui me sont arrivées dans ma vie. C'était pendant la guerre, à Madrid. Je sortais de prison et j'avais un de mes amis qui m'avait parlé d'un musée extraordinaire qui se trouvait dans cette ville, le Prado, et qui m'avait engagé à y faire un tour. Mais je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Étant un petit provincial, en fait, je n'avais jamais vu ce qui s'appelle un tableau, un vrai tableau. En tout cas, je ne l'avais pas regardé. Et dès que je suis arrivé à Madrid, je suis allé au Prado. Et immédiatement, dans la première salle, j'étais ébloui. Enfin, je pense que l'arrivée dans la Terre promise, enfin, le rêve de cette arrivée, correspond à l'état d'euphorie, de joie, d'allégresse qui s'est immédiatement emparée de moi devant tous ces objets que je découvrais, dont je découvrais en même temps l'usage. Je veux dire, si on m'avait parlé d'un tableau avant, j'aurais pensé pouvoir dire ce que c'était, car finalement, il y a des tableaux partout, enfin, et surtout des mauvais. Et tout d'un coup, je découvrais ce qu'était un tableau, et particulièrement, je me souviens très précisément de son emplacement, qui est toujours le même actuellement, du Jardin des Délices de Jérôme Bosch. C'est un très grand tableau, tout rose, avec un vert printanier, enfantin, et je l'ai vu de très loin, tout de suite en rentrant dans la salle, et j'étais comme aspiré par lui. Ça a été un phénomène, si vous voulez, de reconnaissance. J'ai reconnu là des émotions, un plaisir que je n'avais jamais éprouvé, expérimenté, et qui était totalement à ma portée, totalement à ma merci.
Sa vie durant, Daniel Cordier a toujours dit qu'il ne savait pas parler de l'art. Mais vous l'avez entendu, en fait, il le décrit. Et il décrit aussi ce que ça lui fait. On pourrait commencer par là, peut-être, Julie Verlaine, voir quelques tableaux, quelques œuvres que Daniel Cordier a vues et plus que vu, en fait, qu'il a passionnément aimé. Par exemple, qu'est-ce que vous avez choisi comme première œuvre?
On peut peut-être, pour continuer, cette idée du choc et de quelque chose qui est en fait une expérience presque physique, hein, qu'il vient de décrire pour Bosch, on peut commencer par les tableaux du Buffet. Du Buffet est l'un des artistes qu'on associe le plus à Daniel Cordier, en tout cas à la galerie Daniel Cordier. C'est l'artiste qui en a fait aussi la réputation, la fortune. C'est un artiste qui était profondément ami avec Daniel Cordier et qui l'a accompagné donc, pendant toute la durée de la galerie. Et c'est un artiste qui, justement, était non seulement un proche, mais aussi un artiste dont l'œuvre touchait physiquement profondément Daniel Cordier, et en particulier parce que dans l'une de ses œuvres, on peut prendre par exemple la Messe de la Terre, hein, qui appartient à toute une série où l'humus est central. Daniel Cordier appréciait tout particulièrement la matière, l'entassement, l'empattement que Dubuffet utilisait pour réaliser ses tableaux, qui était une célébration de la puissance organique, de la matière, de la fécondité de la terre, le sol sur lequel l'humanité piétine jour après jour.
La Messe de la Terre, Paulin Ismar, œuvre de Dubuffet, ce qui est important aussi, intéressant, il a dit, je l'ai dit tout à l'heure, il a tenté d'écrire la vie de Dubuffet. Et donc, il y a effectivement un parallèle avec Moulin, bien sûr.
Oui, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une première expérience d'écriture biographique autour de Dubuffet. Mais alors, qui ressemble absolument rien à ce qu'ensuite il va écrire sur Moulin dans le style d'écriture ou dans le type de travail qui est visé, puisqu'il s'agit là de raconter du Buffet, mais en même temps en essayant aussi de se faire un peu l'exégète ou l'interprète de son œuvre. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est la relation qui en fait est il y a une relation amicale qui est très forte, mais c'est aussi une relation très dure, parfois assez cruelle entre du Buffet et Cordier, et notamment la façon dont du Buffet traite Cordier à oui. plusieurs reprises en lui disant dans des lettres de rupture hein, qui s'envoient l'un l'autre peu avant que la galerie ferme, et on voit du Buffet lui dire mais j'attendais avant tout que vous vous occupiez de mon secrétariat. C'est très impressionnant parce que c'était sa position auprès de Moulin, et puis c'est en 1977, c'est ce que Freinet, un grand résistant, va lui dire pour le décrédibiliser ou pour le minorer son secrétaire. Vous n'avez été que le secrétaire de Moulin.
Amateur d'art, alias Caracalla, 1946-1977, vous l'avez dit, Paulin Ismar, c'est le dernier volume de ses mémoires posthumes paru en 2024, et on réédite effectivement ce très étonnant texte, cette biographie inachevée, dont le titre est quand même singulier, Julie Verlaine, Monsieur et Madame Dubuffet n'ont pas eu le fils qu'ils méritaient.
Oui, je pense que les deux avaient une personnalité qui effectivement a mené à pas mal de conflits, farouche liberté, farouche autonomie, le désir de contrôle. Hein, Dubuffet voulait contrôler son marché et donc il mettait en concurrence ses marchands les uns avec les autres. Et Cordier, lui, n'entendait pas du tout s'allier et se lier trop précisément avec un artiste plutôt que plusieurs. Donc les deux ont une relation de respect et d'admiration mutuelle hein, très forte et en même temps beaucoup de conflits. Mais aussi un franc-parler qui est assez remarquable et qu'on retrouve d'ailleurs dans la biographie.
Et puis écoutez, c'est Dubuffet qui fait rencontrer à Cordier d'ado en 1956. Il le racontait à la télévision monténégrine.
Dubuffet, je crois que c'était l'automne 1956, me dit « J'ai vu hier un peintre et... je pense que ça devrait vous intéresser. Il s'appelle Dado. Il m'a donné l'adresse de... Il travaillait à des lithos. Il faisait des lithos à ce moment-là. Parce qu'il m'a dit, ce garçon couche dans l'atelier. Il couche par terre. Et il lave les pierres de lithographie. Il les prépare, etc. pour nous. Et alors... il a quelques toiles, vous devriez regarder ça. Alors je suis allé un jour, à l'heure du repas, personne. L'atelier était vide, personne, mais je n'ai pu rentrer. Alors j'ai tourné, et puis j'ai vu par terre une espèce de baluchon, un sac avec des affaires, et il y avait 4 ou 5 ou 6 toiles, et puis 1 ou 2 cartons. Et je me suis dit, mais ça doit être ça. J'ai regardé les tableaux. Et alors les tableaux, j'ai eu un choc. Ah, ça m'a beaucoup plu.
France Culture. Allons-y voir. Patrick Boucheron.
Ah oui, ça lui a beaucoup plu, Daniel Cordier. On entend, Julie Verlaine, le travail du regardeur, en fait, qui passe d'une image l'autre, d'un artiste l'autre. Il a passionnément aimé les artistes.
Oui, et il aime d'autant plus une œuvre qu'elle lui fait un choc. Et oui. Ça, c'est quelque chose de très important. Ce qu'il recherche dans les ateliers, parce que c'est quelqu'un, Daniel Cordier, qui va d'atelier en atelier, il aime voir les œuvres dans leur lieu de création. Il recherche des chocs. Et finalement, les artistes qu'il a laissés de côté, ce sont ceux qui lui ont peut-être fait quelque choc au début et puis finalement ça s'est atténué. Donc il y avait des histoires comme ça intéressantes d'une relation à la peinture qui est très émotionnelle, très, très physique.
Très charnelle aussi.
Très charnelle. Il aime toucher les œuvres hein, aussi. Et c'est le cas pour Dado, c'est aussi le cas par exemple pour Belle-Mère.
Oui, alors vous avez choisi aussi de nous parler d'une des poupées de Belle-Mère qui a été, dans cette galerie Daniel Cordier, dont on disait qu'elle était spécialisée dans le surréalisme tardif,
entre autres,
c'était une des pièces maîtresses.
Oui, alors effectivement, la réputation tout à fait juste de Daniel Cordier dans ce milieu des galeries d'art, c'est de montrer des œuvres qui sont des œuvres choquantes, provocantes, marginales. C'est l'art brut, c'est l'art de Dubuffet, mais c'est aussi l'art surréaliste, ou en tout cas post-surréaliste. Et il aime beaucoup notamment le travail de Bellemare, ses poupées, qu'il montre en sculpture ou qu'il montre en tirage photographique, qu'il expose dans des expositions qui choquent énormément à l'époque, quand bien même on est 20 années plus tard, la création de ces poupées dans les années 30. Et ce qui l'intéresse là, c'est aussi quelque chose sur les pulsions. L'art va exprimer et va faire rejouer auprès des gens des pulsions de vie, des pulsions de mort, des pulsions de désir.
J'ai dérivé au gré de mon caractère et de ma curiosité vers une peinture d'agression dont le ressort apparent ou caché est l'érotisme qui reste le ferment le plus énergique de la conscience, écrit-il dans 8 ans d'agitation, Paulin Ismar. La peinture comme offense, c'est vraiment aussi le cœur, je dirais, de sa vie à Daniel Cordier, une vie aussi de provocation.
Oui, là aussi on retient et qu'on pense à l'œuvre de Bellemare, c'est aussi le goût de l'érotisme. Alors un érotisme ici un peu étonnant,
dérangeant.
Voilà, on a une poupée un peu démembrée qui de toute façon est pas complète, avec des boules qui se disposent autour au bout d'une jambe, au niveau des fesses. Bon, c'est une image qui vous reste comme ça, effectivement, qui C'est ça qu'il aimait.
Ah oui. Et puis d'ailleurs, il en parlait aussi comme ça. Et aujourd'hui, voilà, on l'entend différemment. On va écouter beaucoup Cordier dans cette émission. Là, c'était au Musée des Beaux-Arts de Lyon en juin 2009. Et il parlait de plaisir, d'art et de collection.
Mais oui, la collection, je ne sais pas, probablement, si la collection est le remplissage d'un vide ou l'aliment d'un manque. Alors, il manque beaucoup de choses dans la vie, parce que j'ai beaucoup collectionné. Et il m'a toujours semblé que la compréhension, que l'approche intellectuelle de l'art, au fond, n'était pas de même nature que le plaisir de l'art, qui est une espèce de fusion sensuelle, affective. Oui, c'est... Et tous ces objets que je possède, il ne me suffit pas de les voir, j'ai besoin de les posséder pour les voir chez moi et avoir un rapport personnel avec eux. Alors dans les musées, évidemment, les œuvres que j'aimais, j'ai envie de les posséder. Au fond, je crois que c'est ça l'amour. Quand on voit une fille qui vous plaît ou un garçon qui vous plaît, on a envie de faire l'amour. Et alors là, c'est quand même beaucoup plus reposant. Il y a moins de problèmes après. Mais oui, parce que on possède vraiment. L'avantage des objets, c'est qu'ils ne peuvent pas se défendre.
Julie Verlaine, bon, on est un peu à la limite de ce qu'on peut entendre aujourd'hui, il faut bien reconnaître. Mais voilà, c'est votre métier d'historienne des expositions, des galeries, des marchands d'art, marchandes aussi, on va en parler, évidemment, des femmes. Bah oui, il y a ce désir de possession.
C'est ce désir de possession qui a posé problème finalement à Cordier galeriste.
Oui.
Parce que quand on est collectionneur et qu'on désire posséder les œuvres qu'on admire, c'est quand même un déchirement de voir des clientes et des clients les acheter et les emmener chez eux. Tout ça pour faire vivre la galerie. Donc il y avait quelque chose de l'ordre de la contradiction dans cette activité de marchand collectionneur. Il l'a d'ailleurs très bien exprimé en disant que le pire pour un marchand amateur d'art, c'est de devenir un commerçant.
Pour lui, c'est dans sa lettre d'adieu.
Voilà, dans sa lettre d'adieu à l'été 1964, il claque la porte du marché de l'art avec une violence assez exceptionnelle pour l'époque. Et c'est ça qui va ensuite le mettre un petit peu de côté dans ce monde des marchands qui, de toute façon, l'avaient jamais véritablement adopté comme un des leurs.
Oui, mais
il était trop franc-tireur, il était trop provocateur, libertaire presque, pour le monde feutré des galeries d'art de l'époque.
Et aussi, Paulin Hispard, simplement parce que au début, il n'a pas les moyens financiers de sa passion artistique. Il va finir par l'avoir, mais aussi avec beaucoup d'appui, hein, tout de même.
Oui,
ça
oui.
Ça aussi, c'est lié.
Enfin, je parle sous le contrôle de Julie, hein, mais pour monter la galerie. Mais avant même de monter la galerie, il commence déjà à acheter des œuvres. Il achète un tableau de Staël assez vite, au moment où il est encore peintre et où il pense qu'il peut être peintre, où il est autour de l'atelier de la Grande Chaumière à Paris. Voilà. Mais effectivement, les choses se concrétisent à la fin des années 50.
Mélanger les couleurs, leur tourne en boucle quand j'écris ces mots. Mauvais garçon sous liqueur, au lit le cœur laissé sur le déco, déco d'aquarelle de bonheur. À quoi elle pense, la tête sous l'eau, baignoire, cigarette, alcool sec seul, j'imagine la scène et je peins le tableau. La batterie comme une toile, les notes comme un pinceau, quelques rimes orchestrales. Mon atelier, c'est le studio. J'ai les rêves d'un Van Gogh, la violence d'un Picasso, la lumière de Monet. Mais moi je peins avec les mots. Je t'invite à mon expo. Vernissage, tu portes vernissage, couleur vert d'eau, dos au mur pas si sage. On faisait l'amour contre un tableau, vis et cœur comme virtuose. Oui, tu oses jouer sur le mal-être. Mal-être est resté sans réponse. La réponse est que t'en vaut vraiment pas la peine. Second jour et moi, je me souviens de nos émois, je pensais à toi et moi. J'avais tort en fait, faire de l'art avec toi. J'ai fait art sans toi, mais en fait t'étais là, bloqué dans ma tête. J'ai les rêves d'un Van Gogh, la violence d'un Picasso, la lumière de Monet. Mais moi je peins avec les mots. Je t'invite à mon expo.
Sven Oslo 2023, je t'invite à mon expo, mais laquelle, Paulin Hispard ? Celle, on a parlé de Paris, mais il y en a aussi autre actuellement aux abattoirs.
Une exposition permanente, même si elle ne cesse de se recomposer de façon différente, mais où on peut saisir vraiment de façon très très large ce qu'a été le goût de Daniel Cordier et une grande partie de ses collections, c'est le musée des abattoirs à Toulouse. Et il faut absolument que nos auditeurs, s'ils veulent voilà saisir un peu ce qu'a été le goût de Cordier, faut aller aux abattoirs à Toulouse.
Julie Verlaine.
D'autant plus que à Toulouse, nous avons non seulement les œuvres d'art, mais nous avons aussi les objets, parce oui. que dans les donations Cordier, hein, 1356 numéros, dans les donations Daniel Cordier, il y a des chefs-d'œuvre de l'art contemporain, mais aussi toute une série d'objets minéraux, végétaux, des curiosités. Et à Toulouse, les visiteurs et visiteuses peuvent justement entrer dans l'intimité du collectionneur amateur de ces objets bizarres.
Ce qui vous a intéressé aussi, Julie Verlaine, dans cette histoire, c'est le rapport de Daniel Cordier aux femmes, aux peintres, aux collectionneuses. Regardons toujours, continuons notre méthode, écouter Cordier et regarder ce qu'il a vu. Par exemple, le bagage de la lune de Louise Nevelson.
Le bagage de la lune fait partie de ces œuvres de la sculptrice américaine Louise Nevelson, qui sont des œuvres très mystérieuses. D'abord parce que c'est une boîte qui s'ouvre et qui s'ouvre sur donc des sculptures en bois noirci, assez mystérieuses, qui reconstituent ce que Nevelson voulait faire comme paysage mental. Et ça plaisait beaucoup à Cordier, l'idée de se laisser porter par une imagination de ces objets un peu étranges et sombres, qui évoquent en partie l'art précolombien et aussi beaucoup la sculpture abstraite. Et Louise Nevelson fait partie de ces artistes femmes qui sont exposées à la Galerie Cordier. qui est tout à fait exceptionnelle à l'époque, puisque hommes et femmes y sont présentés indépendamment justement de toute logique de genre. C'est absolument pas important pour lui. Dans une époque où il n'y a quasiment aucune femme jugée digne d'être exposée dans une galerie ou d'entrer dans un musée.
Ça, c'est son côté subversif. Il y en a d'autres, d'ailleurs. Vous le dites dans vos livres, Julie Verlaine, le fait que, eh bien, il a d'emblée une dimension internationale. Il va ouvrir une galerie à New York, à Berlin, en Scandinavie.
À Francfort.
Enfin, déjà, c'est quelque chose, quand même, compte tenu de très tôt.
Hein. Très tôt.
Donc là, il y a effectivement, il appartient à ce portrait de groupe hein, de vos galeristes et collectionneurs et marchands d'art de l'après-guerre, et en même temps, il s'en distingue de bien des manières.
Oui, on peut insister sur la modernité hein, de la pratique de ce métier par Daniel Cordier, qui est marchand d'art international, donc effectivement toujours en voyage, souvent pour aller visiter des ateliers d'artistes, notamment des artistes allemands, à un moment où la scène allemande se reconstitue, donc il découvre, hein, pour la France c'est totalement inconnu à ce moment-là, des artistes allemands. Et puis il va beaucoup à New York, il y a cette fascination pour le marché américain, pour l'art américain, c'est quand même lui qui, le premier en France, expose Robert Rauschenberg, hein, donc il a aussi contribué à une meilleure connaissance en France de ce qui va donner le pop art à New York.
Paulin Ismar, cette question-là du rapport de Daniel Cordier à l'art, il y a aussi, c'est là encore d'une certaine manière, je dirais une spécificité, la question de sa donation.
C'est-à-dire que c'est la donation de 1989.
Oui.
Le fait qu'il ait donné de très très nombreuses œuvres et des œuvres souvent très très importantes dans l'histoire de l'art de la deuxième moitié du XXe siècle au Centre Pompidou. Pour lui, ça faisait partie d'un engagement éthique et politique. Lui, il disait souvent « je suis devenu un homme de gauche » et de toute façon, cette donation faisait partie.
Devenu un homme de gauche, parce qu'évidemment, quand on lit Alias Caracalla, il part de loin, Julie Verlaine.
C'est encore un paradoxe, c'est-à-dire que pour lui, la collection privée était une collection anti-musée, hein, une collection à l'opposé du musée, et donc son complément. Hein, il a toujours rajouté ça. Et donc, quand le Centre Pompidou est dans l'imagination d'une petite poignée de conservateurs en France, dont Pontus Ultène, dont il était assez proche, Daniel Cordier, qui avait fermé sa galerie, était membre de cette très fameuse commission des achats, qui va constituer pour la France une collection d'art contemporain. Et il se met en tête d'acheter pour donner. Donc effectivement, il y a cette démarche-là, et 20 ans plus tard, ça donne les donations Daniel Cordier de plus de 500 œuvres d'art importantes qui aujourd'hui sont montrées presque dans chacune des salles de l'étage contemporain de Beaubourg.
Et puis, vous l'avez dit, Julie Verlaine, lorsqu'on ouvre la boîte de Louise Nevelson, on tombe aussi sur la question du secret, de la solitude, peut-être même de la mélancolie. Il en parlait, fou d'art, Daniel Cordier. 2021.
La peinture, c'est un secret. La peinture, l'art, est un secret. On peut faire des discours. Il y a d'ailleurs beaucoup de manières d'aborder l'art. On peut acheter de l'art, on peut le penser à l'art en écrivant, en faisant des volumes. On peut avoir un tableau ou ne jamais acheter quoi que ce soit et adorer les musées du monde entier, et ainsi de suite. Toutes les situations sont bonnes parce que elles révèlent quelque chose de très particulier dans l'être humain, et en tout cas, à mon avis, c'est sa solitude. Parce que c'est quelque chose qui ne se partage pas. Les œuvres d'art, c'est vraiment un plaisir solitaire. Et je peux vous dire qu'en revoyant celui-là, mon plaisir est absolu.
Le plaisir absolu d'un solitaire. Pour tenter d'en percer le mystère, vous avez choisi, Paulin Ismar, de nous donner à voir, alors vraiment un artiste qu'il aimait particulièrement, qu'il a défendu éperdument, Réquichaut, épisode de la guerre des nerfs.
Un artiste qu'il a défendu du vivant de Réquichaut, mais Réquichaut est mort très jeune, il est mort à 32 ans, et qu'il a défendu surtout après la mort de Rikisho, qu'il a imposé dans les collections nationales.
Il raconte la mort de... C'est un moment poignant, d'ailleurs.
Oui, le suicide de Rikisho, dont il était très très proche, qui était un ami qu'il avait rencontré quand il était peintre. Et c'est aussi admiratif de Rikisho qui s'est un peu mis en retrait de son activité de peintre lui-même. Bah, ce tableau... c'est
épisode pas... de la guerre des nerfs.
Ouais, il est difficile de le décrire parce que on a une grande masse noire qui est striée de grands traits rouges et bleus et puis dont s'échappe vers quand le regard va vers le haut du tableau des formes généralement en spirale. Et la spirale, c'est un grand trait de la peinture de Rikisho, avec tout un jeu de matières assez complexe entre la peinture, des formes de papier collé sur lesquels Rikisho a peint. Bon, c'était un des artistes vraiment qui lui était le plus cher à la fin de sa vie. Chez lui, dans sa chambre, il y avait un très très beau tableau de Rikisho. Il a beaucoup fait parce que il y a un texte important, par exemple, que je crois Cordier a suscité, de Roland Barthes sur Rikisho. Et Barthes disait que Rikisho peignait non pas les corps vus de l'extérieur, mais son propre corps vu de l'intérieur.
Oui.
Alors voilà, il y a quelque chose de, on pourrait dire, presque viscéral dans cette peinture.
Qui oui, est vraiment c'est un art de la blessure, c'est un art à vif, et c'est ça sans doute qui plaisait beaucoup aussi à Daniel Cordier.
On retrouve cette matérialité aussi.
Et à nouveau, on retrouve une autre matérialité, un peu moins organique, beaucoup plus effectivement viscérale, liée aussi à des questions de santé mentale hein, qui sont importantes et qui relèvent de cet art dérangeant, de cet art du bizarre.
L'art dérangeant, l'art comme offense, vous vouliez dire un mot aussi, Paulin Ismar, du rapport entre la mélancolie, le désir, à travers peut-être le rêve de Michel Lablaisse.
Oui, alors Michel Lablaisse, vous voyez, c'est aussi un peintre qui, lui, est très peu connu, qui est mort, je crois, en 2017, qui a été ami avec Cordier, dans les années 60-70, et que Cordier a toujours défendu.
Là, on est au plus près, c'est-à-dire que c'est pas les grands artistes que
non,
tout le monde connaît.
Non, c'est vraiment son goût, vraiment son... dans ce que ça a de très intime. Bon. Et moi, je trouve ce tableau absolument magnifique. C'est un homme qui semble dormir, qui est nu, qui est penché de notre côté, les yeux fermés, et son corps se mêle à plusieurs corps décharnés ou écorchés ou déplumés d'oiseaux, de moutons, mais qui, eux, ont les yeux ouverts. Et avec ces yeux d'animaux qui semblent à chaque fois regarder le spectateur. Et on voit ce corps humain se confondre presque avec ces corps d'animaux. Bon, et on est dans ce goût du surréalisme, du rêve, etc., qui était très 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 fort pour Cordier.
On est, vous le dites, au plus intime de la blessure, et pour sa dernière carte postale de l'année, parce qu'il sera là la semaine prochaine, mais en studio, Mathieu Pot-Bonneville, le directeur du département culture et création de Beaubourg, je crois qu'il veut nous faire voir aussi ce qu'il aime vraiment.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, j'ignore si dans votre panthéon fictionnel, il y a des personnages que vous aimez d'amour. Des figures pour qui vous éprouvez ce mélange de dévotion intense et de tendre affection que suggérait Sainte Thérèse lorsqu'elle se dépeignait comme une petite balle dans la main du Seigneur. Y a-t-il des rôles de théâtre ou de cinéma qui vous ont fait rêver de vous inscrire dans leur sillage ou de vous endormir sur leur banquette arrière, qui ont guidé vos choix et rythmé votre pas en ce monde? Pour moi, j'aime d'amour un type arborant de longues vestes de cuir que je rougirais de porter sur des chemises à jabot ou des cols pelle à tarte. Propriétaire du Crazy Horse West, cabaret de Los Angeles, il veille sur la petite communauté de danseuses légères que vante à ses côtés, dûment coiffé d'un huit reflets, un pathétique meneur de revue surnommé Mr. Sophistication. C'est un taulier, donc, et qui a pour l'éternité le visage infiniment ouvert et réservé, radieux et impénétrable de Ben Gazzara, dans le film de John Cassavetes intitulé « Meurtre d'un bookmaker chinois ». L'intrigue, minimale, est celle d'un aller et retour. Un soir, Cosmo, c'est le nom du personnage, Cosmo Vitelli. Cosmo se voit contraint pour éponger une dette de jeu d'aller commettre un meurtre, sans quoi il verra la mafia mettre la main sur son club qu'il protège par-dessus tout. Il se rend chez sa victime, se fait tirer dessus, revient au cabaret et, sans piper mot de la balle qu'il a dans le ventre, encourage ses artistes comme si de rien n'était. Avec un mince sourire aux lèvres, il laisse s'écouler son sang et le programme du soir. Ce qui me touche, je crois, c'est que Cosmo réunit les deux figures contradictoires du héros et du mélancolique. D'un côté, le héros, comme le soulignait récemment Wajdi Mouawad dans une captivante leçon au Collège de France, est héroïque celui ou celle qui accepte d'abréger sa vie pour une communauté, communauté dont rien n'indique pour autant qu'échappant à la destruction, elle cessera de vaquer à son ordinaire. L'acte héroïque n'ouvre sur rien d'autre que sur le paisible quotidien promis à lui survivre. Les numéros du Crazy Horse West demeureront de seconde zone, et la grandeur du sacrifice auquel Cosmo consent bénit cette médiocrité même. Mais on peut aussi bien voir le personnage joué par Ben Gazzara comme celui d'un mélancolique, tout dévoué à la grandeur qui l'entoure. Assumant son indécision, consentant à sa propre absence d'œuvre, il se consacre tout entier à faire rayonner le désir de celles et ceux qui n'ont pas renoncé à leur rêve d'art. Il protège les étoiles dans les yeux des stripteaseuses et jusqu'à l'increvable ambition de théâtre qui anime Mr. Sophistication. Écoutez ce cri-cri, le philosophe Pierre Zawi. Les mélancoliques sont sans doute le sol et la condition empirique d'existence de tous les grands décidés. Eux seuls sauront offrir une écoute et une bienveillance qui ne soient ni intéressement concurrents, ni indifférence sceptique. Eux seuls sauront les admirer et répandre à travers le monde leur juste gloire. Eux seuls pourront les protéger de la solitude et de la haine que suscite naturellement toute décision ferme chez les indolents. Bref, connaissant les deux possibilités extrêmes de toute vie humaine, la décision de soi et l'abandon, les mélancoliques sont le ciment des hommes, race stérile et pourtant héros nourricier de la fécondité des autres. » Fin de citation. Rares sont les personnages de fiction comme Cosmo Vitelli, où se superpose la bienveillance héroïque de qui n'attend nullement d'être payé de retour, et le mélancolique dévouement qui, voyant dans les désirs des autres le salut du sien propre, s'efforce de leur donner carrière. Rares sont ces figures inventées, hautes, mais les yeux au ciel, d'autant plus admirables qu'elles n'ont pas renoncé à être admiratives. Parfois, certaines vies leur ressemblent.
France Culture. Allons-y voir, Patrick Boucheron.
Certaines vies ressemblent à ce mélange inextricable de mélancolie et d'héroïsme, celle de Daniel Cordier, bien sûr. Alors, il est commode sans doute d'en raconter la vie comme le propose l'exposition du Musée de la Libération de Paris, en distinguant le résistant, l'amateur d'art et le mémorialiste ou l'historien. Mais si on se souvient évidemment de cette révélation du Prado sur laquelle on commençait, j'en cite encore un passage dans La Victoire, en pleurant devant la toile 13 des maillots de Goya, le spectacle a une présence plus terrifiante encore depuis que la surprise du sujet hier est maintenant éventée. Devant ce chef-d'œuvre, seule demeure la terreur qui rejoint celle de la guerre que j'ai quittée. À Julie Verlaine, on est au cœur ou au nœud même, finalement, de la sensibilité de Daniel Cordier.
Oui, et d'une vie qui n'est pas une recherche d'apaisement, mais une recherche de stimulation, voire de harcèlement. Il a beaucoup insisté là-dessus. L'art doit non pas apaiser, mais harceler l'esprit, sans arrêt en mouvement. Et de fait, aujourd'hui, on essaye de tisser de plus en plus les récits, les entrelacer, essayer de comprendre toute la complexité de cette personnalité riche et attachante de Daniel Cordier. Quand j'ai écrit un petit texte pour le catalogue, j'ai justement choisi cet adjectif de franc-tireur. Qui, évidemment, fait écho à la résistance. Et je crois que, d'une manière générale, dans les récits des historiens et des historiennes qui viennent maintenant, peut-être renouer les fils est un impératif qu'on peut se partager.
Et je le redis, Paulin Ismar, c'est ça qui vous a amené à Daniel Cordier, et vous avez été très proche de lui dans les dernières années de sa vie, précisément pour essayer de comprendre comment lui, comme historien, il tissait les fils des vies qu'il cherchait à biographier.
Oui, et la façon, tout en étant un grand historien, enfin moi, c'est ce que je pensais en lisant L'Inconnu du Panthéon, et je le pense toujours, comment, en même temps, quelque chose de son expérience propre circulait dans le texte. Voilà, mais après, il y a vraiment une question pour les historiens, qui est celle de savoir ce qu'est l'unité d'une vie. Est-ce que parce qu'on peut dire il y a quelque chose qui est son goût absolu de la liberté, le refus de transiger avec la liberté, en allant jusqu'à la provocation ou la toute puissance du désir qui posait parfois comme ça comme un absolu. Bah, ça c'est évidemment des lignes rouges qui traversent toute sa vie. Mais effectivement, c'est la question de l'unité de sa vie qui maintenant, quand même, est une vraie question pour les historiens.
Alors, il y a le témoignage, il a beaucoup parlé de sa vie. Vous avez recueilli son témoignage, Paulin Ismar, de l'histoire à l'histoire, ce livre d'entretien que vous avez fait avec lui. Et, il y a aussi les archives, et vous disiez, Julie Verlaine, que ben voilà, c'est un autre monde hein, qui s'ouvre pour nous, historiennes, historiens, et il y a des surprises.
Sans doute qu'il y a beaucoup de surprises, sans doute qu'on va peut-être aussi peupler cet univers de la galerie Daniel Cordier ou de la collection Daniel Cordier en voyant les personnes sur lesquelles il s'est appuyé pour animer la galerie au jour le jour. On parlait tout à l'heure de toute cette internationale en Allemagne, aux États-Unis. C'est aussi quelqu'un qui a des amitiés solides et des collaborations. C'est peut-être ça aussi qui est un enjeu pour la suite, c'est désingulariser le personnage, arrêter de le représenter tout seul ou dans l'ombre de Jean Moulin et voir avec qui il a fait alliance pour faire l'histoire à la fois de l'art contemporain mais aussi de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et de la résistance.
Mais c'est un petit peu écrire du coup son histoire à rebours de la façon dont lui l'a raconté, oui. Ce qui est en même temps une autre façon d'être fidèle à l'historien qu'il a été.
Et tout cela compose peut-être une histoire chuchotée de l'art comme le chante Dominique A en 2012.
Tout a commencé un 17 janvier il y a 1 million d'années. Un homme a pris une éponge sèche. Il l'a laissé tomber dans un seau plein d'eau. De quel homme il s'agissait n'a pas d'importance. Il est mort, mais la vie. Je veux dire, laissons les noms de côté. Comme je disais déjà environ à 10 heures d'un 17 janvier il y a 1 million d'années, un homme était assis seul à côté d'un fleuve. Il pensait, où vont les fleuves et pourquoi? Voulant dire pourquoi coule-t-il par là où il coule. Une telle chose, il s'imaginait. J'ai moi-même regardé un jour un boulanger, un forgeron et un cordonnier en travaillant. Et j'ai constaté que l'eau était nécessaire à leur travail. Mais peut-être ce que j'ai constaté n'a pas d'importance.
En tout cas, le 17 se change en 18, et puis le 19 en 20. Le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27. Le 28, le 29, le 30 novembre. Ainsi passe le temps.
Le 17 décembre, il y a un an, un homme a pris une éponge sèche et l'a laissé tomber dans un seau plein d'eau. De quel homme il s'agissait n'a pas d'importance. Il va mourir, mais la revit. Je veux dire, laissons les noms de côté. Comme je viens de dire, un 17 décembre, il y a un an, un homme a pris une éponge sèche et l'a laissé tomber.
S'il vous plaît, gardez à l'esprit que le 17 décembre se change en 18, et puis le 19 en 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25 décembre. Que le 25 décembre est né Jésus. Au moins, les chrétiens le disent, les juifs le nient, les musulmans sont partagés, les bouddhistes ne s'en préoccupent pas, de même que les communistes et les athées. Quant aux artistes, eh bien, ce que croient les artistes est une autre histoire.
Bonjour Julia Pouma.
Bonjour
On
Patrick
Boucheron. On est content de vous retrouver.
Moi aussi, très.
Alors, vous voulez nous parler des collectionneuses, mais des collectionneuses quand aujourd'hui, au début du 20e, on peut peut-être commencer par le début du 20e siècle, par exemple.
Allez, on remonte d'un siècle en arrière. Oui, je voulais rendre hommage à Christophe Pomian.
Ah.
Il y a un texte de lui que j'ai beaucoup aimé qui raconte cette rencontre, en fait, qui se fait entre fin 19e et premier 20e, entre d'un côté ce qu'on appelle l'âge d'or du collectionnisme américain, donc une grosse demande, et de l'autre ce que lui qualifie de grande braderie des œuvres des maîtres anciens en Europe. Alors si on ajoute à cela qu'au début du XXe, la législation qui protégerait le patrimoine n'est pas encore très affirmée en Europe, ça provoque un effet de départ des œuvres depuis le vieux continent vers le nouveau, et on comprend l'essor remarquable des collections américaines. Et en particulier, ce que Pomian mettait en avant dans un texte qui est aujourd'hui réuni dans des saintes reliques à l'art moderne, c'est que les femmes ont tenu un rôle majeur, vous le savez mieux que nous, Julie Verlaine, dans ce collectionnisme. Et c'est un phénomène, cette place des femmes, que Tocqueville avait déjà repéré d'ailleurs et déjà signalé discrètement dans De la démocratie en Amérique dès les années 1830. Mais Pomian va l'explorer pour la fin du 19e et le début 20e. Et il y a un personnage que j'ai plaisir à rappeler, c'est Isabella Stuart Gardner, parce qu'elle a collectionné tant de primitifs italiens qui me sont chères. Et donc, elle est un exemple flamboyant de ce type de collection. Elle a beaucoup voyagé, elle est passée d'un goût pour l'art asiatique à un goût pour l'art italien. Et puis, elle a fini à Boston par se faire construire tout un palais où elle imite un de ces palais qui sont sur le Grand Canal à Venise et qui on peut visiter encore aujourd'hui, qui s'appelle Fenway Court et qui est une des plus belles traces de ce premier âge d'or des femmes collectionneuses. Et ce que j'aime dans la lecture que fait Pomian de ce mouvement, c'est qu'il nous permet de comprendre que ces femmes utilisaient leur collection comme un instrument d'émancipation sociale, culturelle, et souvent qu'elles destinaient leur collection à un large public. Elles participaient à une démocratisation de l'accès à l'art. En somme, si on veut résumer tout ça en deux points, il ne faut jamais dissocier les activités orientées vers l'art d'une conquête plus globale des droits politiques et sociaux égaux pour les femmes à ceux des hommes. Et puis, le collectionnisme féminin est un fait social à saisir dans une très longue durée.
Oui, Julie Verlaine, vous avez travaillé là-dessus, évidemment, sur une histoire transnationale du marché de l'art, des collections, et puis des collectionneuses, justement. Et c'est lié, y compris dans votre tout dernier livre dont je parlais tout à l'heure, à cette question de l'émancipation, comme le dit fort bien Julia Pouma.
Complètement, hein, quand on regarde un petit peu qui a collectionné, comment et pourquoi, on fait finalement l'histoire des femmes dans le monde occidental, avec tous ces jalons de conquête progressive d'un certain nombre d'éléments juridiques, mais aussi sociaux et culturels. Et on voit aussi, c'est sans doute pour les collectionneuses d'aujourd'hui que ça se pose, qu'il y a potentiellement des reculs et des moments où ces droits, ces affirmations, cette visibilité des collectionneuses peut refluer.
Dans votre livre, vous parlez effectivement de ces collectionneuses qui sont plus collectionneuses que marchandes d'art, et effectivement du temps de Cordier déjà, vous en donnez quelques exemples.
Hein. Oui, c'était ce qui m'avait alerté dans les archives, c'était toutes ces présences féminines qui pourtant ne tenaient pas du tout de rôle dans les grands récits. Alors vous parlez par exemple de Pomian, dans sa grande histoire mondiale des musées, peu de cas est fait aux femmes, femmes médiatrices, femmes artistes, et puis femmes conservatrices de musées, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a intéressée. Mon dernier livre notamment parle des veuves d'artistes, c'est-à-dire ces femmes qui, pendant les 30 années qui séparent la mort de leur mari de l'entrée des œuvres au musée, vont travailler à la valorisation de la cote, la vente dans les galeries et puis les grandes expositions et les donations. Donc il y a une présence féminine dans ce monde des musées et de l'art qu'il convient de remettre un petit peu plus en lumière.
Et aujourd'hui, Julia Pouma.
Alors, sans prétendre avoir un point de vue aussi englobant que celui de la spécialiste Julie Verlaine, je voulais vous proposer de prononcer quelques noms pour qu'ils gagnent en visibilité, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, quand il est pratiqué par des femmes, le geste du collectionnisme est un observatoire d'une forme de féminisme global et d'une certaine intersectionnalité. Je prends trois noms. Diane Audrey Ngako, tout d'abord, qui est basée à Douala, au Cameroun et qui est à l'initiative d'une foire artistique, d'un prix avec résidence, d'une maison d'édition, et le tout depuis sa galerie, donc à Douala. Dans une récente interview en mai 2025, elle nous interpelle, elle dit « Réfléchissez au rôle du collectionneur, de la collectionneuse. J'aimerais que nous arrêtions de dire art africain en général et que nous nommions plutôt des artistes africains spécifiques et idéalement que nous fassions la différence entre l'art de chacun de nos 54 pays. » Donc il y a une prise en main théorique finalement de la position de la collectionneuse que je trouvais très intéressante. Deuxième exemple, une collectionneuse de Miami, Leslie Goldwasser, qui met en avant les photographies très belles de Tamari Kudita, une artiste du Zimbabwe, qui est une autrice de portraits à mi-hauteur, de femmes, au sein d'une série qu'elle appelle African Victorian Series. Et elle nous les donne à voir, regardant la photographe droit dans les yeux, des femmes en pleine possession de leurs moyens. Les femmes photographiées, dit la collectionneuse Goldwasser, y sont maîtresses de leur image et de leur histoire. Dans les exemples très rapides que je viens de prendre, ce qui me frappe, c'est la dimension intercontinentale, non seulement des parcours des artistes, mais aussi des collectionneuses. Elles sont souvent formées sur un continent qui n'est pas celui où elles ont grandi. Elles ouvrent des galeries sur plusieurs continents. Et donc, la circulation des œuvres est favorisée par cette situation. Et les cas que j'ai choisis, c'est parce qu'ils expriment une solidarité, une valorisation à une échelle désormais globale des femmes entre elles pour faire entendre une multiplicité de voix dans toute leur complexité via la présentation de créations visuelles.
Merci Julia. Julie Verlaine.
C'est magnifique, effectivement, de voir toutes ces initiatives qui vont allier présentation d'un art résolument contemporain et aussi émancipation, affirmation de soi. Et de fait, tous les noms que vous venez de citer sont effectivement des noms de personnes qu'il faut vraiment suivre avec attention dans les années à venir.
On parle de reconnaissance, on parle d'émancipation, on parle en somme de démocratie. Paulin Ismar, d'une certaine manière, je vous présenté tout à l'heure comme un historien de la démocratie en longue durée, c'est ça qui vous a intéressé aussi peut-être dans la vie libre de Daniel Cordier, c'est-à-dire c'est l'enjeu démocratique alors que lui-même a quand même une vie politique très compliquée qui nous permet en fait de repenser tout ça, non?
Oui, enfin disons que c'est vraiment surtout ce goût sans limite de la liberté. Et avec le prix que ça a, et que ça a, je pense aussi pour les gens qui pouvaient être avec lui, les entourer, etc. Mais alors, moi, plutôt, ce à quoi ça me fait penser, c'est toutes les femmes qui ont travaillé avec Daniel Cordier et sur lesquelles il n'aurait jamais pu travailler. Oui. Et aux différents moments de sa vie. C'est-à-dire que je pense, et on pense évidemment à Lord Diebold pendant la guerre, on pense à Jeanne-Marie de Breuil qui en fait organisait concrètement la galerie pendant, à la fin des années 50, qui est vraiment une personne très importante. Et on pense aussi, moi je pense beaucoup à Patricia Falchero qui a travaillé à ses côtés pendant des dizaines d'années à la fin de sa vie et qui a travaillé sur tous les textes qu'on peut lire aujourd'hui.
Et toujours des femmes, toujours des femmes derrière ces grands hommes, évidemment, évidemment. Julia Pouma, d'ailleurs, vous êtes une historienne de l'art ancien, c'est la même chose, on les trouve les femmes quand on les cherche.
Ah, beaucoup, oui. Quand on travaille comme moi sur l'iconographie chrétienne, on est absolument aveuglé par l'omniprésence de Marie et puis ces saintes qui subissent toutes sortes d'horreurs. On essaye aujourd'hui, je dirais, mon vœu, c'est que quand elles sont représentées, les femmes n'aient pas à autant souffrir que dans cette iconographie ancienne.
Le musée imaginaire, c'est les objets, 1991. C'était Allons-y voir. Merci beaucoup à vous trois, Paulin Ismar, Julie Verlaine et Julia Pouma. Les références de vos livres, de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission. Une émission préparée par Sophie-Catherine Gallet, Anouk Minaudier et Lilou Maupetit. À la prise de son Ludovic Auger et à la réalisation Laurence Millet. Merci à toutes, merci à tous. Le paradis, l'enfer, et donnez-moi les pierres.
donnez-moi le ciel et donnez-moi des ailes. Donnez-moi la terre et donnez-moi les pierres.